It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omani kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town good to me. Oh, yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Just for me. Oh, yeah. She says loving early in the morning. Just for me. Oh, yeah. She says loving just for me. Yeah, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me.
Autant vous le dire sincèrement, l'émission que vous allez suivre aujourd'hui a été l'une des plus difficiles à concocter, non pas à cause de la thématique du jour, mais davantage en raison des choix de programmation. Je m'explique. Les éditions Grund ont fait paraître il y a peu un ouvrage épatant réunissant les 100 albums cultes de l'histoire afro-planétaire de 1957 à 2015. Comment voulez-vous, dans ce cas, choisir les œuvres capables d'illustrer notre propos sans susciter de frustration? C'est la question que nous allons poser à notre invité du jour, Christian Eudeline, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, critique musicale, on peut ou on a pu vous lire dans différents journaux, VSD, Les Échos, Jukebox Magazine, Rock and Folk. Vous collaborez à des émissions de télévision et de radio. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la musique de Jacques Dutronc au rock gothique. Quel éclectisme. Et vous nous présentez aujourd'hui Black Music, les 100 albums cultes de la soul au R&B. Tout d'abord, comment avez-vous réussi à faire une sélection tant la richesse de l'épopée des musique noire est imposante.
Comme c'est moi qui signe, c'est moi qui décide. ça, c'est la première chose. Non, mais je dirais, il y a des noms qui étaient incontournables. Tout commence avec Ray Charles, si vous voulez. Vous pouvez pas parler de la musique noire, de la musique, même le jazz ou la soul, sans évoquer Ray Charles. C'est lui qui va, au lieu de chanter le sacré, qui va chanter l'amour physique. Au lieu de chanter l'amour du sacré de Dieu et de chanter à l'église, hein, via le gospel, parce que beaucoup d'artistes noirs qui vont faire de la soul ont commencé à chanter à l'église. À un moment, voilà, ils ont plus envie de chanter cette divinité, Dieu, ils vont chanter autre chose, et en particulier la femme. Moi, je dis toujours, j'ai cette formule, on passe du sacré au sensuel. Et il y a une date de naissance à ça, c'est-à-dire qu'en 1925 ou en 1942, vous n'avez pas réellement ça. Ça va passer par le blues ou le jazz, mais la forme est un petit peu différente. Parce que dans le blues, c'est rythmiquement 12 mesures, 3 accords, etc. La soul est beaucoup plus fluide, elle vous donne envie de danser, elle vous donne envie de d'enlacer quelqu'un. Voilà, et la date de naissance, elle est, moi je la date avec le premier disque, c'est le premier album de Ray Charles.
1957.
Voilà.
Peut-on dire que ce livre est la bande-son de l'émancipation des Noirs d'Amérique, du mouvement des droits civiques jusqu'à Barack Obama ?
J'ai envie de vous répondre oui, parce que beaucoup d'artistes vont accompagner cette émancipation des Noirs aux États-Unis, cette soif de liberté, hein, on va dire. On est dans une chronologie qui correspond. Mais en même temps, c'est pas que ça dans les deux sens. C'est-à-dire que le mouvement des Black Panthers a beaucoup à faire avec le sport et les Jeux Olympiques en 68, par exemple, les Black Panthers étant cette association de Noirs qui revendiquait leurs droits, auxquels ils avaient droit. La musique va les accompagner, oui, vous prenez, il y a un album de Marvin Gaye qui va parler des émeutes à la fin des années 60 aux États-Unis parce que les droits n'ont toujours pas cette égalité de chance et de droits dans la société américaine. C'est l'un des accompagnements, cette musique, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le cinéma qui est quand même très très important, le sport et puis la politique.
Juste après Ray Charles, vous avez inscrit dans ce top 100, dirons-nous, le regretté James Brown. Qu'a-t-il apporté de plus ou de différent à l'expressivité ou au message d'un Ray Charles ?
C'est con, mais Ray Charles, il restait assis derrière son piano et James Brown, il se levait pour danser. Et vous avez la création du funk, c'est irrésistible. C'est-à-dire que Ray Charles était le plus grand compositeur, il a inventé la soul, mais James Brown, il a inventé tout le reste, cette folie, cette sensualité. Le funk, une traduction du mot funk, c'est la sueur, la sudation durant l'acte sexuel. Donc James Brown, c'est le plus grand danseur de tous les temps. En quelques mois, Ray Charles, James Brown, vous avez la création de la musique soul et la création du funk. Et pendant 10, 20, 30 ans, de très nombreux groupes, des dizaines, des centaines de groupes vont ne faire que reprendre ces enseignements.
Écoutons Please Please Please, James Brown en 1958, vous dites dans le livre. Or je crois que le single est sorti en 56, mais vous parlez de l'album.
J'ai pris des albums parce que il faut quand même que les gens s'y retrouvent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en 1958, vous parliez de l'émancipation des Noirs, le premier album de James Brown, la première photo d'un disque de James Brown, donc le premier, Please Please Me, c'est une jeune femme, blanche, évidemment. Ce n'est que après, que quelques mois après, qu'on a mis la photo de James Brown lors des rééditions de ce disque. C'est très significatif.
Please Please Please, James Brown, 1958.
Please, 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 please.
Please, please, extrait de l'album du même nom, c'était James Brown en 1958.
Bon, je t'accorde que c'est pas le morceau le plus dansant. Mais on sent cette lascivité quand même.
C'est vrai. Christian Odlin, nous allons maintenant faire un bond de 10 ans et nous retrouver en 1968. D'ailleurs, peut-on consulter votre livre sans suivre l'ordre chronologique au risque de perdre le fil de l'histoire ?
Mais moi-même, lors des relectures, j'allais vers un groupe que je venais de réécouter. C'est-à-dire que c'est sans entrée qui se suivent, parce qu'il faut bien les ranger, et puis ça raconte une histoire et une évolution, mais la plupart des gens, quand ils ont ce livre dans les mains, ils vont regarder un artiste qu'ils aiment bien, ou ils le feuillettent et ils s'arrêtent sur une pochette. Oui.
Donc on peut picorer.
C'est, voilà, picorer est le terme exact.
Nous sommes donc en 1968 maintenant, l'Amérique noire a profondément changé en une décennie. Diriez-vous que les artistes sont plus revendicateurs à cette époque ?
Alors, dans les années 60, il y a une sorte de révolution ou une prise de conscience de la jeunesse qu'elle existait, qu'elle avait peut-être son mot à dire et que le modèle qui était entériné par les aînés n'était peut-être pas le meilleur modèle. C'est-à-dire que faut pas oublier qu'à la fin des années 60, vous avez des mouvements sociaux portés par des mouvements musicaux qui appellent à une sorte de grande liberté. Le psychédélisme, comme on l'appelle, c'était de ne pas obéir à un travail régulier et à un modèle que la société traditionnelle imposait. La population noire ne se retrouvant pas tellement dans cette musique blanche pop-rock, je parle des Doors, hein, il y a très peu de noirs dans cette musique pop-rock psychédélique. Alors, Jimi Hendrix est une exception, mais bon, il y en a très peu. Donc, ils ont évolué un petit peu en parallèle. Et forcément, ces idées d'émancipation à la fin des années 60 se retrouvent. Les jeunes veulent quelque chose d'autre. C'est vrai pour les États-Unis, mais c'est vrai aussi en Europe. Hein. Mai 68, les étudiants défilaient dans la rue en compagnie des ouvriers pour une société différente, tout simplement. Donc, les artistes noirs extrêmement prolifiques aux États-Unis dans cette deuxième période des années 60 vont évidemment prendre l'air du temps. Vous avez des groupes très importants qui vont essayer d'amener un petit peu de liberté. Alors de liberté stylistique, ça va se traduire par un monsieur, par exemple, qui s'appelle Sly, et son groupe s'appelait Sly and the Family Stone. Leur envie, c'est de trouver une voie différente, de rester dans un modèle un petit peu funk, dansant, guitare, basse, batterie, mais de repousser les limites. Voilà. Il y a un parallèle évident avec cette musique psychédélique des Doors qui veut repousser aussi les limites. On veut de nouvelles expériences.
Vous qui êtes un amateur de rock, vous avez écrit sur le mouvement punk. Seriez-vous d'accord avec moi si je dis que l'énergie d'un groupe comme Sly and the Family Stone que vous venez de citer laisse poindre une rébellion qui s'apparente à la fronde d'une génération insoumise ?
Lorsque vous refusez le modèle qui vous est imposé par les autorités, gouvernementales ou policières, évidemment que c'est une rébellion et que vous entrez dans une sorte de combat. Sly and the Family Stone, c'était des grands happenings sur scène, c'est-à-dire qu'il fallait une libération. C'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans un groupe qui s'appelle Funkadelic. L'idée, c'était, alors je vais le dire en anglais, mais c'était « Free your mind and your ass will follow ». Donc, qu'on pourrait traduire « Explose-toi la tête, libère-toi l'esprit et le reste suivra ».
C'est joliment dit parce que c'est pas exactement ça en anglais.
Je sais pas, c'est ce que mon professeur d'anglais m'a appris.
Bien sûr.
Et donc, l'idée, voilà, c'est de refuser ce qu'on vous impose, le modèle. Le mot premier, c'est la liberté. Donc oui, les autorités et les policiers sont pas très contents parce que très souvent, pour se libérer l'esprit, si on lit certains auteurs, comme Jacques Kerouac par exemple, l'usage de substances hallucinogènes est une bonne méthode pour explorer une nouvelle voie. C'est interdit par la loi.
Pour l'année 68, vous avez retenu donc Sly and the Family Stone, Jerry Butler, Diana Ross et Aretha Franklin, des artistes bien différents, des discours et une musicalité très différente également. Pourquoi ont-ils suscité, chacun d'eux, votre intérêt pour ce livre ?
Alors, Sly and the Family Stone, pour ceux qui ont écouté Prince, comprendront pourquoi. C'est un monsieur qui jouait très très bien de la guitare et qui arrive à concilier un petit peu l'expérimentation rock psychédélique avec cette musique funk. C'est un groupe. Vous avez une force incroyable lorsque vous écoutez ces disques, certaines chansons. Et puis l'un de leurs hits s'appelait « I want to take you higher », donc « J'aimerais t'emmener ailleurs ». Donc c'est très caractéristique de cette fin des années 60, de cette révolution dont on parlait. Ensuite, on a dit Diana Ross, c'est la chanteuse des Supremes. Supremes, c'est un girl groups, donc une réunion de trois jeunes filles par un producteur, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Phil Spector avait fait pareil, et ben là c'est Berry Gordy. Mais Diana Ross va être très très intéressée, ça va être la maîtresse de Berry Gordy, elle va tout faire pour réussir. Et le résultat est incroyable parce que c'est une musique qui va devenir extrêmement populaire. C'est-à-dire que les chansons des Supremes, tout le monde les connaît, même si le nom n'a pas retenu votre attention.
Jerry Butler.
Alors, Jerry Butler, c'est quelqu'un que personne ne connaît, mais quelqu'un qui a écrit des dizaines de chansons qui vont cartonner. Ce livre me permettait de mettre en lumière pas des seconds couteaux, mais des noms beaucoup, beaucoup moins connus. Voilà. C'est l'exemple parfait de quelqu'un qui a écrit, je sais pas, plusieurs centaines de chansons. Personne ne sait qui c'est. Ces disques ne valent pas grand-chose, sont pas très collectionnés. Mais quand vous écoutez des chansons signées par Jerry Butler, « Ah, mais oui, c'est lui qui a écrit ça !» Voilà. Parfait exemple de cette richesse incroyable que la scène soul, funk, noir des années 60 pouvait nous proposer. Et le quatrième exemple...
C'était Aretha Franklin,
qui a eu l'illumination en changeant de label. Elle commençait par le jazz, c'était une pianiste, une extraordinaire chanteuse. Et puis, j'ai envie de dire qu'elle a la chance de signer chez Atlantic, et puis d'enregistrer de la musique soul, parce que là, ça devient quand même quelque chose de beaucoup plus flamboyant.
Aretha Franklin, Think. Aretha Franklin en 1968 sur l'album Aretha Now. Je m'étonne que vous n'ayez pas inscrit le fameux I'm Black and I'm Proud de James Brown dans votre sélection de 1968.
Alors, il n'y a que 100 choix. il a fallu que je me restreigne et je voulais prendre le premier album de James Brown. Mais évidemment, I'm Black and I'm Proud, sorti en 68, est significatif de cet appel à l'émancipation des Noirs. On est totalement d'accord. Mais l'idée, c'était de prendre... un disque par artiste.
Christian Hudlin, nous allons maintenant aborder une période durant laquelle la soul originelle semble disparaître. Je parle de la fin des années 70, quand le funk et bientôt le disco vont squatter les ondes. Comment expliquez-vous cette évolution mercantile de la musique noire américaine ?
Parce que au début, ce sont plutôt des chanteurs, ensuite ce sont plutôt des groupes, donc le son va forcément s'en trouver modifié. On passe de Otis Redding à Funkadelic, par exemple. Le son se change, mais aussi la société change, les habits deviennent un petit peu plus colorés aussi, ça passe par la mode, par le look. Mais même des formations telles que les Temptations ou les Four Tops, qui étaient là depuis le début des années 60, au lieu d'arborer des costumes un peu sombres et puis un peu rigides, blancs ou noirs ou gris ou bleus, eux-mêmes vont porter des chemises colorées. C'est l'époque qui change.
Mais est-ce que l'apparition des Cool and the Gang, Earth, Wind and Fire ou Chic marque la fin d'une époque ?
Les deux plus grands groupes de la fin des années 70 s'appellent Cool and the Gang, Earth, Wind and Fire. Et aussi, j'ai envie de dire, quand même, les Jackson 5 qui vont devenir Michael Jackson. Ce sont des musiciens qui ont une culture qui vient du jazz, des grands, grands musiciens qui savent à peu près tout faire. On oublie aussi une chose essentielle, c'est que la plupart de ces musiciens sont noirs, et aux États-Unis, quand même, une grande partie du public est blanc aussi. Donc l'écueil a toujours été de comment s'adresser au public blanc de la part de ces musiciens noirs. Et là, ils ont trouvé en faisant danser tout le monde à la discothèque.
Et puis, je ne m'y attendais pas, vous avez fait entrer Fela Kuti dans ses 100 albums incontournables. Pourquoi ? Vous étiez plus dans la culture afro-américaine, on va dire, alors que Fela Kuti est un Nigérian.
Alors, par définition, comme vous le dites, la culture afro-américaine vient d'Afrique, mais elle est née aux États-Unis. Mais toute cette musique, avec le chant des esclaves, le commerce triangulaire qu'il y a eu au 19e siècle, le blues, le répon dans les champs de coton, on donne sa naissance en Afrique. Je ne pouvais pas ne pas prendre un héros africain, parce que c'est le continent, j'ai envie de dire, le plus important, parce que c'est de là que tout est parti. On sait l'amour d'un groupe comme Earth, Wind & Fire pour l'Afrique. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de clins d'œil. Pour eux, c'est la terre du monde, quoi. C'est là où tout a commencé. Donc, je cherchais un artiste africain. L'Afrique étant un continent extrêmement grand, généreux et riche, il y a peu d'artistes qui ont enregistré du funk et qui ont eu du succès. Et Fela est l'un des seuls, l'un des rares, à avoir proposé un funk dans l'école de James Brown, mais un peu plus fou, parce que différent, parce que venant d'une autre culture. On se rappelle de ses 25 ou 40 femmes, on se rappelle de sa consommation effrénée de cocaïne, mais au-delà de ses clichés un petit peu, sa musique est d'une puissance incroyable. Il a sorti des albums, c'était très difficile de choisir un album de Fela, parce que c'est quelqu'un qui en a sorti je ne sais pas combien, mais en France, on a eu la chance qu'il vienne régulièrement dans les années 70, ça a été une sorte de terre d'accueil pour lui. Et c'est un génie pur, quoi, c'est un génie pur.
Vous avez choisi No Agreement comme album.
J'ai eu beaucoup de mal, parce que j'en ai beaucoup, beaucoup que j'aime encore. Il y a une cinquantaine d'albums, hein, en 15 ans, voilà. Ce sont des grands happenings, c'est autre chose, c'est la même école, mais on propose autre chose, parce qu'il y a l'idée de trance, ça passe vraiment parfait là. Et c'est magique, quoi.
Mais vous imaginez bien que nous n'allons pas écouter les 15 minutes, mais quelques mesures de No Agreement. Fela, Anikulapo, Kuti. Note de No Agreement, le légendaire Fela Anikulapo Kuti en 1978. Est-ce que ce livre Black Music, paru chez Grund Édition, porte un regard critique sur tous ces albums qui ont marqué l'histoire? Ou est-ce que vous vous êtes contenté de narrer une épopée discographique et musicale?
Bah non, parce que l'idée c'est de donner envie quand même. Alors il y a peut-être des périodes que j'aime un petit peu moins personnellement, ou des artistes que j'écoute moins souvent. Ça je peux pas le nier, on peut pas tout écouter de toute façon. Mais absolument pas, non, je trouve qu'il y a une richesse et c'est positif, c'est pas critique.
Quoi qu'il en soit, ce livre est passionnant et instructif pour tous ceux qui veulent se plonger dans l'épopée des musiques noires. Christian Hudeline, je vous ai apporté quelques disques issus de la culture noire, vous avez toute cette discothèque devant vous. C'est vous qui allez choisir celui qui refermera cette émission.
Ben oui, mais vous n'avez pas amené de vinyle, c'est que des CD,
ben
c'est horrible.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ici à la radio? Maintenant on diffuse
bon, alors,
des CD.
Bon, alors le choix se portera sur Donny Hathaway.
Et pourquoi donc?
Parce que c'est quelqu'un qui est passé complètement sous silence, qui a eu une carrière très 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 courte. La première fois que j'ai écouté ses disques, ses chansons, j'ai pris une claque, je me suis dit, mais c'est qui ce mec? C'est extraordinaire, c'est un trésor méconnu, un trésor caché... Parce qu'au-delà des grands noms que vous avez cités, je voulais pointer du doigt des disques absolument incontournables. Pour Noël, vous achetez une compile de Donny Hathaway et puis mon bouquin. Voilà.
Et puis quelques vinyles.
Ah oui, en vinyle, bien sûr.
Donny Hathaway, The Ghetto, le choix de Christian Eudeline, notre invité dans l'épopée.
Yes, this is the ghetto. Showing up now.
Ghetto, un classique de Donny Hathaway et un choix judicieux signé Christian Eudeline, que je remercie d'être passé nous voir aujourd'hui.
Eh ben merci.
Je rappelle que Black Music, paru chez Grund Edition, est disponible chez tous les bons libraires et sera du meilleur effet au pied du sapin de Noël. Justement, la semaine prochaine, notre cadeau de Noël sera notre hommage à James Brown, disparu il y a 10 ans. C'était le 25 décembre 2006. Vous l'aviez rencontré ?
Jamais.
Vous auriez aimé, j'imagine.
J'aurais aimé, oui, mais c'était une star à la fin de sa vie, enfin, depuis très longtemps, et difficile à approcher quand même.
Merci à vous.
Ben merci.
Et puis vous êtes toujours le bienvenu dans cette émission et rendez-vous donc la semaine prochaine pour le spécial James Brown de Noël. Nathalie Laporte se chargera de décorer le studio 42 de 1001 guirlandes multicolores. Quant à moi, je veillerai à concocter la bande son de votre réveillon. Passez une bonne semaine, on se retrouve donc à Noël dans 30 secondes, le journal. Internet.